Bon, donc bonjour à tous. Isabelle Richard, je suis le doyen de la faculté de médecine de l'Université d'Angers et j'ai la charge assez lourde de représenter la conférence des doyens à la CSI médecins. Et je vais donc essayer de vous exposer cet après-midi quelle est notre position par rapport aux difficultés actuellement rencontrées par le DPC. C'est très impressionnant de savoir que c'est enregistré en direct, parce que ça veut dire aussi que ce sera possible à retrouver indéfiniment sur Internet, dans un contexte qui est un petit peu polémique. Et je voudrais donc peut-être préciser en introduction ce que notre agacement vis-à-vis de la situation actuelle des PC n'est pas. Ça n'est pas une remise en cause de la pertinence d'une formation continue pour tous les professionnels de santé effectivement mise en œuvre et effectivement contrôlée. C'est sûrement un des marqueurs d'une organisation moderne d'un système de soins et bien évidemment nous y souscrivons. Et ça n'est pas non plus une mise en cause de l'équipe de direction de l'OGDPC qui se trouve parfois attaquée de toutes parts, alors qu'il me semble que c'est une équipe qui a essayé de façon extrêmement consciencieuse et le plus consensuelle possible de s'atteler à une tâche qui s'avérait être rigoureusement impossible. Alors, une première diapositive sur mes liens d'intérêt en ce qui concerne les activités avec l'industrie pharmaceutique. La faculté de médecine que je dirige perçoit de la taxe d'apprentissage, dont de la taxe d'apprentissage en provenance de l'industrie pharmaceutique ou d'entreprises du domaine du matériel médical. Je n'ai pas à titre personnel d'activité de formation ou de conseil pour l'industrie pharmaceutique et ce depuis très longtemps. Je suis médecin de médecine physique et réadaptation par ailleurs et j'ai participé à des activités de recherche clinique promues par des sociétés de fabrication médicale. Je suis doyen d'une faculté de médecine, ce qui représente un lien d'intérêt moral indiscutable. Membre d'une société savante qui est la SOFMER et enfin membre de la CSI médecin. Et puis pour la petite histoire, et je ne peux pas prétendre que ça n'ait nécessairement aucune influence sur ma façon de voir les choses, le dossier de l'Université d'Angers a été soumis à l'OGDPC et accepté par l'ensemble des CSI auxquels il a été soumis, sauf celle des médecins. Pour préparer cette intervention, j'ai repris en fait, puisque je suis comme tout le monde, moins je travaille, mieux je me porte. Donc j'ai repris une partie des diapositives d'une intervention que j'avais fait il y a 2 ans pour votre association, dont le message global était « on s'y met et on va y arriver ». Et ça m'a fait un peu sourire de reprendre les diapositives. Et donc j'ai essayé de faire un parallèle entre le discours que je tenais il y a 2 ans et celui que j'ai envie de tenir aujourd'hui. Et on verra que parfois, sur certains sujets, j'ai changé d'avis. En particulier, il y avait une des diapositives de ma présentation d'il y a 2 ans, une des dernières diapositives, qui disait « bon, on va s'y mettre, mais finalement, quelles sont les forces des universités ?» Donc ça, je vais essayer de le reprendre. J'avais détaillé il y a 2 ans l'intérêt de la formation continue pour l'université. Je crois que tout le monde est convaincu. Comment se structurer pour répondre au cadre du DPC? On essaye depuis ce matin de répondre à cette question. Je ne vais pas plus y arriver en 10 minutes que vous n'y êtes arrivé depuis hier après-midi. Et puis par contre, j'ai envie de vous dire un petit mot de comment nous considérons que la mise en place du DPC n'a pas utilisé les forces des universités. Et enfin, un certain nombre de nos réactions par rapport au rapport de l'IGAS que nous avons évidemment lu avec beaucoup d'attention. Alors, les atouts de l'université pour la formation continue en santé, cette diapositive est la même qu'il y a 2 ans, et il nous semblait qu'il y avait effectivement un certain nombre de caractéristiques propres de l'université qui pouvaient être intéressantes. D'abord, la première richesse de l'université, c'est les universitaires, et il nous semblait effectivement que le fait de pouvoir disposer de l'expertise des hospitalo-universitaires était une force. Les universités ne sont pas constituées uniquement de composantes santé, elles ont aussi d'autres composantes qui ont des choses à apporter à la formation continue des professionnels de santé, en éthique et en management, par exemple. Et donc, la construction de formations pluridisciplinaires, ça peut être un des objectifs de l'université. C'est un des endroits où on peut faire le lien avec la formation initiale. Ce sont des structures qui ont un certain nombre de moyens spécifiques, par exemple leur laboratoire d'anatomie ou leur laboratoire de simulation. Et puis enfin, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait négligeable, ce sont des structures qui ont une certaine expérience de la frugalité et c'est rare qu'on y glisse dans le fond des canapés de cuir ou qu'on se chatouille au poil de la moquette. En ce qui concerne la pluridisciplinarité, ça nous semble extrêmement important parce que ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un, je ne sais plus par qui, mais ça a été dit dans le courant de la discussion. L'université est un des endroits où on peut, dans de bonnes conditions, organiser des actions de formation continue au service de plusieurs types de professionnels de santé. Et on a vu ce matin, dans l'intervention du collègue anesthésiste, l'importance qu'a le travail en équipe pour l'amélioration de la sécurité des soins. Il y a des endroits, les hôpitaux certes, mais aussi les universités, où on peut mettre autour de la même table, y compris pour des professionnels libéraux, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, et les faire travailler ensemble sur un sujet. Ça nous semble extrêmement intéressant, d'où la très grande pertinence de structurer des départements de formation continue en santé. Le contexte particulier du lien avec la formation initiale, je l'ai déjà donné. On a vu ce matin comment les mêmes outils pouvaient être utilisés pour la formation initiale et la formation continue, par exemple les MOOC. Et puis la discussion intergénérationnelle, ça a un vrai intérêt. En ce qui concerne les moyens spécifiques dont disposent les universités, cette situation très particulière du tandem hospitalo-universitaire, même si c'est vrai que la façon dont on nous a demandé de structurer nos ODPC n'utilise pas bien ça, puisque vous avez bien vu que la première chose qu'il faut cocher quand on se déclare, c'est si on est une université ou un hôpital public, mais on risque en aucun cas d'être les deux. Ça, c'était probablement dommage. Les facultés de médecine n'ont pas un lien que avec les hôpitaux universitaires, mais aussi avec les autres hôpitaux de la subdivision, et puis via leur département de médecine générale, avec l'ensemble du réseau des maîtres de stage de médecine générale, organisés dans certaines régions autour de maisons pluridisciplinaires de santé. Et c'est un des endroits où on pourrait essayer d'avoir une irrigation de l'ensemble du territoire. Elles ont des équipements multimédia qui sont en général disponibles et d'autres structures dont j'ai déjà parlé. Alors bien évidemment, et je crois qu'effectivement, il va falloir qu'on passe tous les uns et les autres à une défense pas à pas des intérêts de l'université dans cette affaire, qui ont quand même été un peu malmenés. La formation continue est un élément d'un très grand intérêt pour les universités. Alors certes, d'un intérêt financier, il ne faut pas se voiler la face. Pour mon université, la totalité de la formation continue en santé, c'est de l'ordre de 600 000 euros sur un budget total de 140 millions. Donc ce n'est pas tout à fait négligeable. Et dans la situation actuelle de nos universités, c'est une offre sur laquelle il faut que nous soyons présents. Mais l'essentiel de l'intérêt du développement d'une offre de formation continue par les universités, je dirais que c'est les bénéfices immatériels qu'elles peuvent en tirer. C'est l'inclusion des CHEU dans leur environnement et leur articulation avec l'ensemble du système de soins. C'est un développement de logique du type anciens étudiants. C'est parfois amusant de constater que finalement, les médecins se sentent assez peu des anciens étudiants de l'université, ce qui sont pourtant absolument tous. Et puis enfin, l'université, c'est le lieu d'articulation de la recherche et de la formation, et c'est donc le lieu où on peut espérer irriguer rapidement la formation par les résultats de la recherche et, dans l'autre sens, remonter aux collègues chercheurs les besoins de formation, et c'est aussi une façon d'orienter nos questions de recherche. Alors, nos faiblesses potentielles, cette diapositive était déjà là il y a 2 ans. En italique, il y avait ce qu'il y avait sur la diapositive d'il y a 2 ans, et puis en caractère droit, il y a ce que j'ai rajouté cette année. Donc, bien évidemment, les universités ne sont pas parfaites, ont des progrès à faire, notamment en termes d'ingénierie pédagogique, n'évaluent pas toujours les besoins de formation, ont des stratégies de communication qui ne sont pas toujours à la hauteur, et ont en plus un certain nombre de contraintes réglementaires pour arriver même à utiliser l'argent. Néanmoins, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement sont clairement aussi d'une autre nature. Une hostilité d'une partie des acteurs à l'université, il y a un moment où il faut appeler les choses par leur nom. Des injonctions qui sont assez contradictoires en termes de gestion financière, je vais y revenir. Et puis enfin, un empilement des stratégies de contrôle qui peut finir par agacer. Je pense que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, lu in extenso le rapport de l'IGAS, qui comporte une phrase qui m'a fait sourire, tant elle vient effectivement En écho d'un certain nombre de difficultés de fonctionnement de la CSI médecin, l'enregistrement des hôpitaux ou des universités, qui ont certes un savoir-faire en matière de formation, peut-être, mais n'offrent pas nécessairement des garanties pédagogiques dans certains domaines, comme la médecine de premier recours, est une source d'inquiétude pour certains représentants des médecins généralistes. Je pensais ce sujet dépassé. Autre difficulté à laquelle nous sommes clairement confrontés, quelques difficultés dans l'amarrage précis de nos deux ministères de tutelle et dans leur entente sur ce sujet. À un bout, et je vais reprendre des éléments du rapport de l'IGAS, une affirmation qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une place spécifique pour les universités, pas de place spécifique pour les universités dans la formation. Alors qu'il me semble que la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche prévoit leur place dans la formation tout au long de la vie, terme qui a remplacé dans la loi le terme de formation continue, et qu'on n'imagine pas bien que ce soit vrai dans tous les domaines sauf en santé, et prévoit d'ailleurs également dans la future stratégie d'accréditation des universités un dossier pédagogique spécifique pour les formations de santé et examiné conjointement par les deux ministères, ce qui est évidemment tout à fait normal. Toujours dans le rapport de l'IGAS, donc une réflexion qui est la mission à écarter l'idée complémentaire d'évaluation favorable d'office qui aurait pu être appliquée aux organismes publics, puisque ça avait quand même traversé la tête de certains que ça aurait été une simplification potentielle. Cela reviendrait à considérer que tous les organismes publics délivrent des formations de qualité. Il me semble que non, cela reviendrait à admettre qu'il existe déjà d'autres procédures de contrôle des universités. En ce qui concerne les aspects strictement financiers du dispositif, qui sont quand même au cœur d'un certain nombre des polémiques, il nous semble que là aussi, on est devant un certain nombre d'injonctions contradictoires. Dans les éléments qui me semblent assez préoccupants dans le rapport de l'IGAS, sauf si je ne l'ai pas bien lu, d'autant plus que l'analyse financière n'est vraiment pas ce que je fais de mieux, mais il semble quand même qu'une des grosses difficultés du DPC, c'est que ou bien on n'a pas vraiment l'intention d'arriver au bout et de le rendre effectivement obligatoire pour tout le monde, ou bien il manque une partie du financement et une partie significative. On pourrait donc en déduire qu'a priori, des stratégies plus efficientes de mise en place de solutions de formation et qui coûteraient moins cher seraient bonnes à prendre. C'est pas tout à fait comme ça qu'est vu le fonctionnement de l'université, puisque pour des raisons qu'on peut comprendre aussi, hein, qui sont celles du droit européen de la concurrence sur ce marché particulier qui est le marché de la formation et de l'enseignement supérieur, le rapport de l'IGAS note que la participation des universités au dispositif induit une situation de distorsion de la concurrence, puisque les universités sont des organismes de DPC, comme les hôpitaux publics, financés par ailleurs sur de l'argent public. On ne nie pas que la question existe et qu'elle doit être traitée. Il nous semble qu'elle doit être traitée en utilisant au mieux les stratégies efficientes que proposent les universités et pas en essayant de s'en passer. Alors, pourquoi est-ce que le DPC, à notre avis, n'a pas essayé d'utiliser les forces des universités ? Il nous semble, et je pense que si on reprenait l'ensemble des interventions faites, notamment dans cette assemblée, je crois que les universités ont cherché à jouer le jeu. Les universités ont, pour la quasi-totalité d'entre elles, déposé des dossiers d'ODPC. Elles ont, pour beaucoup d'entre elles, souhaité adapter les formations existantes pour incorporer tous les aspects positifs du DPC. On leur reproche beaucoup, parfois, d'avoir essayé de réutiliser l'offre de formation antérieure. J'aurais tendance à dire qu'il aurait plus manqué qu'on n'essaye pas de réutiliser l'offre de formation antérieure. Évidemment qu'on a essayé de réutiliser l'offre de formation antérieure et il me paraît y avoir un peu d'intégrisme dans ce reproche. Et puis enfin, il y a eu clairement qu'il s'agisse des états généraux organisés par la conférence des doyens, des colloques organisés par votre association, mais aussi de très nombreuses réflexions en région, une volonté des enseignants, des universités de se saisir de la question. Et puis progressivement, elles se sont quand même trouvées confrontées au fait que l'ensemble des stratégies qui représentaient justement la spécificité et l'intérêt d'une participation des universités au dispositif n'ont pas été prises en compte. J'ai mis le délibérément entre parenthèses, peut-être ne faut-il pas devenir paranoïaque non plus, mais il y a clairement eu une forme d'injonction aux universités d'être des ODPC strictement identiques aux autres. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt collectif que les universités soient des ODPC identiques aux autres, ou est-ce qu'elles ont une place spécifique à avoir dans le dispositif ? Alors, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on continue, on ne peut pas se laisser décourager comme ça, ça ne ressemble beaucoup ni aux uns ni aux autres. Donc, tant que les règles du jeu n'ont pas été redéfinies, il me semble qu'il faut continuer de déposer des dossiers d'ODPC pour les universités qui ne l'auraient pas encore fait, rectifier les dossiers en fonction des demandes des CSI pour ceux qui ne conviennent pas, développer des formations, poursuivre. De toute façon, on a appris des tas de choses en se mettant à la réflexion sur le DPC. Il ne s'agit pas du tout de faire caler la machine, ce qui est indiscutablement un des risques du moment où chacun commence à être un petit peu découragé de voir l'enthousiasme qu'il y a mis pas tout à fait couronné de succès. Donc il faut continuer, mais il me semble par ailleurs, et je rejoins tout à fait la position du professeur Mercier exprimée tout à l'heure, il faut obtenir les modifications raisonnables du système en s'appuyant sur les propositions du rapport de l'IGAS, et il y en a un certain nombre, et de façon financièrement soutenable, puisqu'encore une fois, sauf si vraiment mon absence d'expertise financière m'a conduit à lire le rapport pas comme il devait être lu, j'ai compris que c'était quand même une des principales difficultés à résoudre, et c'est probablement un des éléments sur lesquels les universités ont des choses à proposer. Alors, ce rapport de l'IGAS, il comprend donc quatre scénarios, et la conférence des doyens de faculté de médecine a transmis à la DGOS un document définissant un petit peu sa position par rapport à ce rapport et les commentaires qu'elle avait à y faire, dont je vous ai remis certains éléments sur la diapositive. En préambule, ce que je disais en préambule de mon intervention, c'est-à-dire que bien évidemment, nous sommes attachés à la mise en place d'une obligation de formation continue pour tous les professionnels de santé. Et nous reconnaissons que le DPC, c'est-à-dire cette liaison étroite EPP-formation continue, est une innovation pédagogique pertinente. Nous pensons par contre que la stratégie a très légèrement dépassé son but, ce qui est d'ailleurs une des interprétations proposées dans le rapport de l'IGAS, et qu'il y avait un pas qu'il n'aurait peut-être pas fallu franchir entre développer des programmes de DPC et considérer que le DPC avait vocation à devenir la seule stratégie de formation continue reconnue et financée. Donc on a exprimé qu'effectivement, on partageait cette position, qu'on pensait de plus, après les difficultés qu'il y avait déjà eu à essayer de mettre en place une forme d'obligation de formation continue, qu'il n'était pas complètement raisonnable d'avoir tourné à 90 degrés avant même d'avoir atteint le premier objectif, et qu'on souhaitait que les universités aient leur place dans ce dispositif. Alors, il y a un paragraphe du rapport de l'IGAS qui traite spécifiquement de la question de la place des universités. Il a un sous-titre que vous retrouverez dans le rapport, je ne sais plus exactement, mais qui est assez amusant, qui dit que, en fait, ils n'étaient pas vraiment prévus dans le dispositif et que leur place n'avait pas vraiment été définie. On est d'accord, on pense que c'est un problème. On l'avait rectifié, comme beaucoup d'entre vous ont noté, un peu in extremis. Mais on pense que c'est fondamentalement curieux qu'on ait pu être oublié au départ. Mais bon, peut-être qu'on se fait beaucoup d'idées de notre importance. On souhaite réagir à la proposition qui figure dans le rapport concernant nos DU et nos DIU. Elle est en gras. Donc la recommandation, ce n'est pas faite par la conférence des doyens, je vous rassure, c'est faite dans le rapport de l'IGAS. Et la suppression de la modalité de reconnaissance des DU, DIU comme équivalent à un programme de DPC. Ça veut donc dire que les obligations des universités quant à la gestion de leur DU, DIU comme programme de DPC seraient analogues à tout autre programme de DPC. Et ça, clairement, ça nous paraît ni efficient, ni pertinent. Il nous semble que ces formations ont des caractéristiques particulières, c'est que ce sont des formations diplômantes. Donc d'une part, ce sont des formations qui sont déjà passées au travers d'un filtre d'évaluation, qui sont ceux des conseils de gestion des UFR et des conseils de la formation et de la vie universitaire. Première particularité des DU et des DU par rapport à d'autres programmes de DPC. Deuxième particularité, c'est des programmes de formation qui ont un volume qui est incomparable avec les quelques demi-journées d'un programme de DPC. C'est des choses qui sont de l'ordre de 80 à 150 heures. Leur découpage en une phase d'évaluation des pratiques et une phase cognitive, c'est parfois possible. Un certain nombre d'entre nous se sont attelés à cette tâche-là sur leur DU. On pourrait probablement mettre en commun cette réflexion-là. Elle fait probablement avancer les choses. Il n'est quand même pas tout à fait certain, qu'elle soit pertinente pour l'ensemble des DU, puisque un certain nombre d'entre eux ont justement pour objectif l'acquisition de compétences entièrement nouvelles. Donc, c'est pas forcément pertinent de partir d'une évaluation de la pratique antérieure si l'objectif, c'est de développer une compétence entièrement nouvelle. Il nous semble donc qu'il faudrait qu'on revienne à une situation qui nous semblait plus simple et plus pertinente, qui soit celle où la validation d'un DU-DIU permette au professionnel de remplir son obligation de DPC, de façon à ce que la prise en charge des inscriptions au DU-DIU puissent être financés par les OPCA ou les établissements de santé selon la façon dont ils sont organisés et que les établissements ou les OPCA ne se trouvent pas dans la situation où ils ont financé une formation et où, in fine, le professionnel n'a toujours pas rempli ses obligations de DPC. Ça paraîtrait tout à fait absurde. En ce qui concerne le financement des professionnels eux-mêmes pour qu'ils participent au DU-DIU, ça n'était pas le cas dans la situation précédente. C'est pas d'une importance, à notre avis, déterminante. Le temps total DU-DIU étant de toute façon très supérieur au forfait annuel et dont il est question dans le rapport de l'IGAS qui soit éventuellement triannuel. Donc ça nous semble pas très vital pour nos universités. Et il nous semble que de développer des formats pertinents comme nos DU-DIU permettant aux professionnels de remplir leur obligation de DPC sans pour autant grignoter une cagnotte dont il nous semble avoir compris qu'elle était de toute façon insuffisante, ça nous semble une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. Il nous semble que ça ne s'applique pas que au DU-DIU, même si c'est peut-être la plus grosse masse d'inscrits ailleurs, mais aussi à l'ensemble des autres formations, notamment des masters, qui vont se développer dans nos universités dans la perspective de la formation à des nouveaux métiers de la santé, et dont là aussi on comprendrait pas très bien que ça ne remplisse pas le rôle de formation tout au long de la vie pour les professionnels qui s'y inscriraient. Le paragraphe suivant du rapport de l'IGAS évoque la question des risques d'atteinte à la loyauté de la concurrence et propose des modalités d'organisation financière des universités qui ne sont pas nécessairement aussi simples que ça à mettre en œuvre. Il nous semble que si ça peut être pertinent pour le développement de formats courts, on est directement sur un format concurrentiel d'autres organismes de formation et où on peut comprendre que cette concurrence doit être non biaisée, cet argument nous semble beaucoup plus discutable pour les formations diplômantes. Le rapport de l'IGAS se conclut par quatre propositions, quatre scénarios. Un premier scénario qui consiste à améliorer, si on est positif, replâtrer, si on est moins positif, le dispositif actuel. Il nous semble qu'une analyse purement du point de vue de l'intérêt des universités, de la majorité des propositions qui sont développées, montre que ces propositions sont majoritairement défavorables aux universités et qu'à ce titre-là, il y a une certaine pertinence à ce que nous nous comportions comme les autres acteurs et défendions aussi nos intérêts. Le deuxième scénario est peu différent du premier en termes d'organisation, mais propose la délégation de la gestion aux OPCA et la concentration des missions de l'OGDPC sur certaines formations. Il ne nous semble pas qu'il y ait de raison particulière que la conférence des doyens se positionne entre le premier et le second. Ça pose éventuellement d'autres questions qui sont celles des relations des médecins salariés avec leur CHU notamment, mais c'est une autre question. Le troisième scénario est un scénario qui nous semble comporter en germe des choses intéressantes et des plots qu'il faudrait tirer, peut-être pas dans l'urgence immédiate. Il propose en effet que cette obligation de formation soit limitée à quelques contenus prédéfinis. Et il écrit entre les lignes que finalement, ça pourrait être une forme de préalable à une réflexion sur une obligation de recertification. On n'est pas sûr qu'on en soit tout à fait là, mais globalement, nous sommes plutôt favorables à ce qu'on engage cette réflexion-là, qui là aussi nous paraît plutôt un marqueur de modernité d'un système de santé. Et puis enfin, le quatrième scénario est un scénario qui est perçu comme décourageant ou défavorable, qui est de retourner au droit commun de la formation et qui est présenté comme on revient à avant 1996. Alors, est-ce que les doyens sont favorables à ce qu'on revienne à avant 1996? On voit bien un petit peu la présentation outrée qu'il pourrait y avoir d'une telle position. Il me semble néanmoins que cette quatrième proposition prend acte de la construction d'une usine à gaz et du fait que les acteurs ont essayé de s'en saisir et au bout de 2 ans, personne n'y est arrivé. Peut-être qu'il y a aussi un moment où il faut constater ça et repartir dans une autre direction. Signifie que cette stratégie conduirait à au moins 8 millions d'euros d'économies. Ça nous paraît quand même beaucoup. Nous paraît, quant à nous, la solution la plus réaliste. Nous n'avons pas l'impression que les améliorations soient des améliorations à la marge sur un système qui marche presque et qui est à peu près conforme à l'intérêt de tous, y compris des universités. Nous avons l'impression que le système actuel est un système qui ne marche pas et qui a quelques raisons graves de ne pas marcher et dans lequel les universités qui avaient été oubliées initialement n'ont toujours pas la place qu'elles devraient tenir. Je vous remercie.
Donc, félicitations pour ce tableau sans langue de bois, sans phare non plus, et que j'ai trouvé très objectif de la situation actuelle. Vous avez également insisté sur l'obligation, je pense, de la formation multidisciplinaire des professionnels de santé, du rôle de l'université, qui est primordial, et puis félicitations pour avoir pris parti pour l'un des 4 scénarios et puis d'avoir avec honnêteté reconnu que jusqu'à présent on peut plus parler, je ne dirais pas d'échec, mais de mauvaise direction pour les 2 ans passés. Félicitations au fond du cœur, Madame la Doyenne.
Après, je pense qu'il ne faut pas gauchir cette position non plus jusqu'à son extrême. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important que ce pays arrive à mettre en place une formation continue des professionnels de santé. C'est extrêmement important. On commence à ne pas être dans les clous d'un pays développé en termes de formation continue de ses professionnels de santé. Mais si on veut effectivement arriver à le faire, il faut le faire avec des outils suffisamment simples pour qu'ils soient effectifs rapidement. Or, on voit bien que là, sur des éléments quand même aussi hardware que le financement et l'obligation de contrôle, on voit pas très bien comment ces éléments-là sont bordés. Et par ailleurs, on a construit un système qui est extrêmement compliqué, dont on n'arrive pas à se servir. Donc on est effectivement très favorable à ce qu'on simplifie le système et à ce qu'on revienne à des positions un peu plus basiques, même si elles sont dans un premier temps moins attractives sur le plan de l'innovation pédagogique, mais quelque chose de robuste et qui marche. Et puis, à partir de là, des constructions qui seront possibles. Mais il nous semble que là, les priorités ont été mises dans l'autre sens. C'est plus facile à dire après.
Madame le doyen, chers collègues, permettez à un ancien de DPC Université de vous faire un reproche.
Ah bien, je vous en prie, rien pour ça.
Voilà. Pourquoi est-ce que vous nous avez... que la conférence des doyens n'a pas associé l'ensemble des responsables de département de DPC à cette réflexion?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est une des difficultés du fonctionnement et c'est une des évolutions possibles peut-être du fonctionnement. On a réorganisé très récemment, à l'initiative de la conférence des doyens, un groupe pédagogie premier et deuxième cycle avec nos assesseurs pédagogie principalement, c'est eux qui y participent. En se disant que chacun des 38 d'entre nous n'avait globalement que 2 bras et 1 tête, hein, et qu'il fallait absolument qu'on arrive à structurer autour de la conférence des doyens des groupes d'intérêt qui puissent porter un certain nombre de thématiques. C'est aussi un petit peu l'esprit des états généraux de la formation médicale. Et je crois effectivement qu'il faut qu'on arrive à structurer ça pour la formation continue et à rapprocher votre groupe de réflexion et les forces que vous représentez du groupe de réflexion de la conférence des doyens et pas seulement de faculté de médecine, et que c'est là que c'est un tout petit peu plus compliqué, puisqu'il faudrait en fait, si on veut vraiment tous ensemble être efficaces, que entre toutes les bonnes volontés qui sont là dans la salle, le groupe santé de la CPU, la conférence des doyens de faculté de médecine, de faculté de pharmacie, à mon avis aussi la conférence des enseignants en école de sage-femme, au moins pour ce qui est des formations santé principalement organisées à l'université, on regroupe nos forces et on parle d'une seule voix. Et c'est clair que notre savoir-faire en termes de défense de nos intérêts est moindre que celui d'autres acteurs dans le champ, on va dire.
Moi, j'ai une petite remarque sur la difficulté posturale à dire le dispositif n'est pas bon et en plus, on n'est pas dedans. Parce que c'est un petit peu... on n'est pas assez dedans, c'est pas bon, donc ça sous-entend qu'on est convaincu que si on était dedans, ça serait meilleur. Et je pense qu'il faut quand même s'attacher, mais je ne dis pas qu'on ne le fait pas, hein, mais une des principales missions, à mon avis, qu'on doit se donner, c'est de faire la démonstration que toutes ces idées reçues, là, enfin, je ne comprends pas qu'on dise que la pédagogie dans les universités, c'est peut-être pas très bon, ou je ne sais pas ce qui marque, là, enfin bref. Et ça, je pense qu'il faut s'attacher à le faire, le savoir-faire, le faire savoir, enfin, etc., et mettre en avant l'excellence dont on nous parle depuis un certain nombre de temps, et qu'on doit pouvoir démontrer assez simplement pour faire changer les comportements, quoi. Parce que juste le dire en n'étant pas assez dedans, à mon avis, ça sera très facile de nous dire, vous dites ça parce que vous considérez que vous n'êtes pas assez bien servi. Je pense qu'il faut faire un effort sur le faire savoir, quoi.
Oui, mais il y a effectivement des formats pédagogiques qu'il faut qu'on investisse de la même façon que d'autres acteurs et sur lesquels parfois on n'est pas aussi bon que d'autres en termes de stratégie de communication. Par exemple, parfois on est aussi bon que d'autres et c'est les autres qui ne le savent pas. C'est un peu de façon de dire la même chose. Je pense aussi que l'ensemble de cette stratégie a été construite sans se demander une seconde ce que les universités pouvaient apporter dedans. En fait, elle a été construite initialement en n'ayant même pas imaginé que les universités avaient leur place dedans. Ça n'est que progressivement qu'on s'est aperçu que, ah mon Dieu, l'université avait un rôle dans la formation tout au long de la vie et qu'elle avait des facultés de médecine et de pharmacie. Donc, à partir de là, on a essayé de faire un collage auquel les uns et les autres, on a essayé de souscrire. Et c'est l'un des endroits où la couture continue à se voir considérablement et où il y a un moment où il va falloir reculer d'un cran et reprendre la réflexion dans l'ordre où elle aurait dû être prise initialement. Je crois quand même. Et les multiples écritures du texte sur les DU, DIU, etc., c'est un exemple.
Bon, Isabelle, moi je suis très content de voir que le discours s'est durci. C'est très très bien. Je pense qu'il fallait ça. Je ne savais pas que tu allais plancher comme ça. Par contre, ce que je crois, c'est que. Et on est plusieurs à le penser, et nombreux, c'est que la philosophie du DPC, et tu l'as dit un petit peu, est très bonne. Je ne crois pas que l'on puisse inventer un système meilleur pour la formation continue. Donc il ne faudrait pas, alors qu'on prenne le scénario que l'on voudra, si c'est le 4, pourquoi pas, hein, il vaut peut-être mieux changer un mauvais système qui fonctionne mal. Mais je crois qu'il faudra de toute manière garder l'idée générale et le propos introductif de ce DPC qui est ce qu'il faut faire, et même dans l'enseignement initial.
Mais bien
sûr. Je pense c'est ce qu'il faut faire.
Mais
faut garder le cap. Mais c'est peut-être la méthode qui est à
changer. Mais partir des besoins de formation, se demander ce qu'une formation change au comportement de quelqu'un, c'est pas vrai que pour la formation en santé, c'est vrai pour. C'est effectivement une réflexion pédagogique de base. Après, imaginer que le même modèle, avec le caractère extrêmement précis des contraintes qui lui sont affectées, puisse être appliqué de façon indifférente à la formation d'un médecin généraliste qui souhaite 3 demi-journées de formation, la formation d'un médecin qui souhaite, via un DU, acquérir une compétence en échographie. Il me semble que c'est quand même bien aussi de la formation continue. La formation d'une infirmière qui souhaite faire l'école des cadres, ou acquérir en tout cas une formation de cadre de santé ou s'inscrire à un master de management. Je ne crois pas qu'on va arriver à faire rentrer tout ça exactement dans le même format, et je ne crois pas qu'il faille essayer. Non, c'est pas l'objet du Non, mais ça n'est pas l'objet du DPC, et pour cette raison-là, les universités ne peuvent pas accepter que le DPC soit le seul format de formation continue en santé dont le financement puisse être pris en charge par les employeurs.
Il y a une partie des universitaires, justement, qui est à la fois dedans et dehors. Autrement dit, moi, je suis vraiment un spécimen des médecins de terrain, qui est entré à l'université grâce à la filière universitaire, mais qui a une très longue expérience de la formation médicale continue. Donc quand j'entendais la Sécurité sociale là tout à l'heure dire qu'il n'y avait pas eu de formation, il y a eu 20 ans de formation médicale continue, de formation conventionnelle avec des financements pour les libéraux. Ça ne s'était jamais passé, ça. Ça a permis aux libéraux en ambulatoire de faire une formation avec des séminaires de 2 jours, mais où il y avait une dynamique professionnelle, mais qui était une intensité, et ça a été cassé. Donc le DPC a cassé cette dynamique. Alors moi, je serais à la fois assez pessimiste sur ce que vous avez dit, ça me rend perplexe, vraiment perplexe. Je rejoins Francis sur les félicitations, parce que c'est vraiment une présentation extrêmement objective, un peu froide, mais un peu objective. Hein. Alors, sur à qui, finalement, vous voulez vous adresser? Vous, les universités, à qui vous voulez vous adresser? Vous y avez répondu, là. Hein.
Pour l'instant, le dossier, à ma connaissance, est pour une grande part sur la table de la DGOS. Et nous avons donc répondu à la DGOS qui nous avait sollicité. Et on les en remercie. On a également adressé nos remarques aux deux ministères. Et on est ouvert à la discussion. Et encore une fois, dans une stratégie où je pense qu'il y a une chose que tous les acteurs partagent et d'où il faut repartir, c'est oui à l'obligation de formation continue pour tous les professionnels de santé. Oui, 3 fois oui.
Alors, les avancées, par exemple, de l'association, hein, c'est vraiment pas parce que je connais bien Marie-Hélène, c'est parce que là, il y a des choses extrêmement positives dans tout ce qui a été fait. Moi, je viens depuis l'année dernière. Tout ça, c'est immense, le champ qui s'ouvre. Même après, pour faire travailler l'ambulatoire. Et puis, après, moi, je n'ai pas de conseils à donner, mais c'est vraiment que l'université reste l'université et reste sur ses points forts.
Bien sûr. Voilà. Ça n'a aucun intérêt que l'université soit un autre DPC comme les autres, pour développer la même chose que les autres. Voilà. Pas de...
Ceci dit, attention quand même, parce que moi j'ai vu dans la presse un syndicat généraliste qui disait que l'université reste sur le point fort et qu'elle reste surtout bien sur la formation initiale et qu'elle ne s'occupe pas de formation continue. Donc, je l'ai lu dans la presse d'un syndicat.
Bon, donc je vais user de ma position d'animatrice. Nous attaquons Madame Weber, chère Madame Weber, nous allons avoir un pugilat ici. Donc, s'il vous plaît, merci infiniment, Isabelle. Et on a Madame Weber en son, donc elle nous voit, elle nous entend depuis un certain temps. Le direct, là également, va la voir en ligne. Nous, on n'aura pour l'instant que le son. Ils essayent d'avoir l'image de Madame Weber. Alors,
si elle nous entend, comme je ne sais pas si elle
nous
m'entend,
entend tout à fait.
Comme je ne sais pas si vous m'entendiez au début de mon intervention, je redis publiquement les remerciements qu'on a pour le fonctionnement de la direction de l'EGDPC, qui, du mieux qu'elle peut, répond aux multiples appels téléphoniques sur une situation qui est extrêmement compliquée à gérer. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce dispositif, mais que des propos parfois simplistes contre la direction de l'EGDPC n'ont pas de pertinence. Et merci pour le travail que vous avez fait.
Donc, Madame Weber, vous avez la parole.
Je renouvelle mes regrets de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, ça m'était totalement impossible. Et d'autre part, donc, on m'a demandé de vous donner mon opinion sur le rapport de l'IGAS et sur les quatre scénarios qui ont été proposés par l'IGAS. Donc, je vais aller très, très vite sur le scénario 3 et le scénario 4. Le scénario 3 et le scénario 4 sont des scénarios qui, à mon avis, tuent le DPC dans ses fondamentaux. Donc, pour moi, ce sont des scénarios qui ne sont pas à retenir, sauf à ne plus faire de DPC et à jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, dans le scénario 1 et le scénario 2, il y a des choses qui sont intéressantes. Le scénario 1, il aurait l'avantage d'améliorer, de permettre de stabiliser le dispositif. Il faut quand même vous rappeler que au moment où on a vu le rapport IGAS, on a eu l'inspection IGAS, c'était au dernier trimestre de 2013. Cette inspection donc s'est appuyée sur des observations du quatrième trimestre. Depuis, puisque le rapport IGAS est sorti début mai, on a eu le temps de faire un certain nombre d'ajustements, on a de stabilisations pour que le dispositif continue et reste sur sa lancée, mais continue à vivre de façon vraiment positive pour l'ensemble des professionnels. Et on a un nombre absolument très important de professionnels de santé qui sont rentrés dans le dispositif. Et à mon sens, le scénario 1 est le scénario qui a toute ma préférence parce qu'il y a des modifications à faire, il y a des améliorations à faire, mais on a démontré que en 2013, malgré toutes les difficultés que nous avons eues, on a démontré que l'organisation du DPC telle qu'elle était prévue est une bonne organisation. Et que c'est un sujet qui nécessite des ajustements, mais que globalement, on est arrivé à mobiliser un nombre très, très, très important de professionnels de santé. Je crois que le docteur Orcel va tout à l'heure vous parler de chiffres. C'est pour ça que je ne vous en parlerai pas, mais il vous dira le nombre de professionnels qui sont rentrés dans le DPC, qui ont adhéré au DPC. Le scénario 2 est quelque chose qui recentre plus les activités de l'OGDPC vers du pluriprofessionnel, vers des programmes de santé publique et qui confie, disons, le DPC traditionnel à des OPCA. Alors, quelque part, moi, j'y vois un inconvénient sur ce scénario 2. J'y vois plusieurs inconvénients. Le scénario 2 fait qu'on va disperser les financeurs. Hein, on dispersera les financeurs et les organismes qui avaient une porte d'entrée unique avec le GDPC vont se trouver confrontés à plusieurs financeurs. On nous demande dans ce scénario 2 d'intensifier nos contrôles avant, après. Et pour faire des contrôles, ben vous le savez, il faut qu'on ait la connaissance de données. À partir du moment où ce sont des tiers qui géreront les programmes, nous n'aurons plus ces connaissances de données et nous aurons énormément de mal à asseoir nos contrôles. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité d'avoir des données très précises, notamment pour les professionnels libéraux, et on voit bien que pour les professionnels salariés, ces données, nous ne les avons pas, parce que nous devons attendre des rapports d'activité des organismes et des OPCA pour pouvoir faire des travaux à la fois statistiques et des travaux de contrôle dessus. C'est pour ça que ce scénario 2, moi, me paraît aussi avoir ses limites, même s'il est intéressant. Et je crois qu'il faudrait peut-être trouver un scénario intermédiaire entre le 1 et le 2. C'est-à-dire que peut-être pour aller vers des programmes qui soient plus de qualité, parce qu'il est vrai que vu le nombre de programmes qui sont sur notre site, si vous regardez un petit peu tous les programmes, vous verrez qu'il y a des divergences très grandes en qualité sur ces programmes. On a des programmes excellents, puis on a des programmes un petit peu fantaisistes. Donc il est peut-être dû à un nombre d'orientations beaucoup plus large, beaucoup trop large. Peut-être qu'il faut un peu recentrer les orientations vers des priorités de santé publique. Il faut des priorités ou aussi dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses et peut-être par moment faire des cahiers des charges concernant des programmes. C'est-à-dire ne pas revenir totalement à l'époque antérieure, mais peut-être faire une mixité des deux pour avoir des programmes, disons, des programmes de qualité. Mais tout ça peut se faire sans verser complètement un dispositif qui a eu du mal à se mettre en place, qui est en pleine montée en charge et qui, pour nous, marche, hein, et auquel les professionnels et les organismes adhèrent. Donc, ça me paraîtrait tout à fait regrettable de devoir changer totalement le principe du DPC. C'est une bonne chose. On voit bien qu'on est arrivé à une prise de conscience très collective des professionnels de santé sur ce sujet. Voilà un petit peu, nous, notre position au niveau de l'OGDPC par rapport au sujet et par rapport justement aux préconisations de l'IGAS. Je ne sais pas si j'ai apporté l'éclairage que vous souhaitiez, Madame Bernard. Est-ce que ça répond un peu à votre commande? Voilà.
Ce n'est pas anormal que l'OGDPC et la Conférence des doyens de faculté de médecine ne soient pas sur la même position. L'argumentation que beaucoup de professionnels se sont inscrits sur le site du DPC, c'est vrai. Le buzz autour du DPC, y compris peut-être autour de son dysfonctionnement, a finalement... fait passer dans toutes les têtes que oui, la formation continue de tous les professionnels de santé, c'est de la bonne solution, c'est vrai, et on peut collectivement s'en réjouir. Nous, on est d'une part un petit peu moins optimistes que l'OGDPC sur le fait que les différents bugs, difficultés, etc., vont être réglés, et un peu préoccupés malgré tout qu'on puisse dire que le principal problème qui reste est celui de la qualité des programmes. Et puis enfin, on est à un endroit du jeu et de la discussion qui est le nôtre, et on pense que la situation actuelle ne fait pas aux universités la place qu'elles devraient avoir, et que c'est notre rôle de le dire, mais on n'est pas les seuls acteurs dans la discussion, et c'est bien comme ça.
Oui, j'ai bien compris l'intervention de Madame Richard et je l'en remercie. Effectivement, je pense que l'université a vraiment un rôle à jouer dans le DPC et aujourd'hui, on ne lui a peut-être pas laissé suffisamment de place dans ce domaine. Bon, c'est vrai que ça ne relève pas de mes compétences et des compétences de l'OGDPC. Mais il est peut-être aussi vrai que le DPC, un modèle de DPC unique pour toutes les professions de santé, quelle que soit la profession, quel que soit le mode d'exercice, ce n'est pas non plus quelque chose qui est parfait. Hein, je pense qu'il y a peut-être des ajustements à faire. Quand tout à l'heure, je vous parlais d'orientation qui était trop large, au départ, on a fait des orientations, le ministère a fait des orientations très larges pour qu'elles couvrent l'ensemble des professionnels. Peut-être qu'il faut aller vers des orientations plus ciblées selon les professions et que les orientations ne sont pas forcément totalement superposables, enfin utilisables par toutes les professions. Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là. Et si je suis optimiste, c'est que... je suis de naturel optimiste, donc je suis par définition plutôt optimiste que pessimiste, mais on nous avait prévu, les Cassandres nous avaient prédit la mort assurée du DPC l'année 2013. Or, aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a, on voit bien que le DPC a réussi, malgré tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu entendre, à rester non seulement debout, mais à avoir beaucoup, beaucoup d'adhésion, à tel point que tout le monde en a parlé, qu'on risque de ne plus avoir suffisamment de finances en fin d'année pour financer l'ensemble des DPC. Donc c'est bien la preuve que ce produit, même s'il est loin d'être parfait, et ça je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, a un avenir. Le tout, c'est de vraiment trouver les ajustements qui permettent de faire répondre aux besoins de chacun. Voilà.
Je vous passe la parole.
Oui, Pascal Pfister de la DGOS. Voilà. Non, à la suite du rapport IGAS, il y a différentes réactions de l'OGDPC, de la DSS, de la CNAM aussi, et de la DGOS. Donc, bon, chacun peut trouver des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Non, moi je voudrais juste revenir sur une question que je me pose quand même, c'est sur cette mésentente qui existe entre la médecine de premier recours et l'université. Pourquoi qu'elle n'existe pas pour la formation initiale, pour tout ce qui est maître de stage? Ça fonctionne quand même assez bien, et il y aurait peut-être des des pistes à trouver ou à se comprendre pourquoi dans un cas ça marche bien, enfin où ça marche, ça une entente, et puis de pourquoi par ailleurs ça ne marche pas, ou en tout cas ça démarre mal, disons, voilà. C'est la discussion qu'il y avait avant. Hein, là, peut-être Monique Weber, elle n'a pas suivi tout ça, donc je chante un peu ça.
Une réponse un peu brève, mais moins il y a d'argent en jeu, plus c'est facile de se mettre d'accord.
C'est la fameuse frugalité, c'est ça.
Ah oui. Il y a des éléments de discussion entre la communauté de la médecine générale, du soin de premier recours et les universités sur la place qui est faite dans la formation initiale et dans la formation continue à cet exercice qui représente l'exercice de plus de 50% de nos étudiants. Il y a eu de multiples discussions dans lesquelles la communauté de la médecine générale a fait considérablement avancer les choses. Et les universités et leurs facultés de médecine ne seraient pas là où elles sont en termes de formation initiale à la médecine de soins primaires s'il n'y avait pas eu une pression pour les faire bouger de la part de la communauté de la médecine générale et au premier rang desquels de la communauté des enseignants de médecine générale. Et ça n'a pas été sans friction et ça n'a pas été simple parce qu'il n'y a aucun système qui évolue de façon simple. Je croyais naïvement, vivant à un endroit où les choses sont plutôt paisibles, que les discussions sur ce sujet étaient closes, qu'on était arrivé à des positions raisonnables, que tout le monde était d'accord sur le fait qu'il faille former les médecins à la médecine de soins primaires et que les universités soient le lieu pour le faire. Il faut constater que, à l'occasion des discussions autour du DPC et de la place des universités dans le DPC, on a vu revenir, et cette fois-ci, de la part de certains membres de la communauté médecine générale, des arguments qui me semblent périmés.
Lesquels ?
Le fait que les facultés de médecine soient intrinsèquement incompétentes dans la formation continue des médecins exerçant la médecine de soins primaires. Et ça, c'est inacceptable par les universités, insultant pour les départements de médecine générale des facultés de médecine. Et ce sont... Mais je sais bien, et je... Mais je sais bien, et je sais bien qu'il y a des malentendus là-dedans, si on veut. En tout cas, je constate que les doyens de faculté de médecine ne sont pas simplement tous paranoïaques et que les inspecteurs de l'IGAS ont bien entendu de la part de certains acteurs des propos peu amènes sur la place de l'université puisqu'ils les ont retranscrits dans leur rapport. Donc on n'a pas non plus des voix, mais je crois que cette discussion n'amènera rien de bon, qu'il faut que la place de l'université soit reconnue et que le caractère déterminant de la médecine de soins primaires et de la formation à la médecine de soins primaires pour la population soit reconnu par les universités. Sur cette base-là, de respect mutuel, on peut discuter.
On va repasser la parole à Madame Weber, mais vas-y, dis un mot.
Très simple. Si on revient sur le DPC, et là, je pense que tout le monde est d'accord, la formation des maîtres de stage est vraiment extrêmement importante et toutes les formations pédagogiques sont hors quota DPC. Autrement dit, un médecin généraliste qui est maître de stage peut faire un peu plus que le quota qui est quand même ridiculement bas pour tous les médecins et de faire ses formations à la maîtrise de stage, à la pédagogie, hors quota. Autrement dit, là, je pense que sur les avancées, mais ça a été dur à l'arracher. Hein. Et là, je parle en tant que secrétaire du syndicat des enseignants de médecine générale. Hein, c'est sur le DPC, ça, c'est une des avancées importantes.
Je ne pense pas que la majorité des départements universitaires de médecine générale a souscrit à ce qui a été dit, et je ne sais pas par qui. Voilà, je voulais quand même mettre un bémol à ce sujet.
Donc, nous allons clore cette discussion-là et repasser... Nous allons repasser la parole à Madame Weber et puis après je vous repasserai la parole aussi.
Oui, je suis toujours avec vous. J'ai entendu effectivement les observations. Et effectivement, pour l'instant, la maîtrise de stage fait partie Toujours des programmes hors quota qui sont pris en charge en plus de l'enveloppe traditionnelle du médecin. Mais vous savez comme moi que l'IGAS estime que ce ne devrait pas être pris en charge dans le cadre du DPC, mais que ça relève plutôt d'un financement autre que d'un financement par le DPC. Donc là, on attend bien sûr la suite. Pour l'instant, pour 2014, il y a une formation à la maîtrise de stage qui peut être prise en charge en plus de la formation des autres programmes de DPC. Après, effectivement, moi, si vous voulez, je mets en œuvre les textes tels qu'ils évoluent. Hein. Si demain, on me dit que la maîtrise de stage ne fait plus partie des programmes de DPC, ben, on prendra plus en charge ces programmes. Mais pour l'instant, pour 2014, ça en fait toujours partie. Effectivement, le débat qu'il y a eu entre les universités et d'autres instances, je crois qu'au départ, l'intérêt de tous du DPC, c'est que tout le monde puisse suivre un programme de DPC, que ce programme soit de la meilleure qualité possible on va essayer de mettre en place les contrôles nécessaires pour que non seulement les organismes respectent leurs évaluations, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de faire un programme témoin magique qui a l'aval de la commission scientifique, mais qu'également les programmes qu'ils proposent par la suite répondent bien aux orientations et surtout aux méthodes préconisées par la chaise. Voilà, moi c'est un petit peu l'apport que je pouvais vous donner sur l'OGDPC. Et à moins que vous ayez d'autres questions, je vais vous abandonner à vos travaux parce que effectivement il y a d'autres travaux qui m'appellent moi-même dans la suite de mon séminaire. À moins que vous ayez, bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions là dans l'immédiat à me poser.
Sais-tu ? Oui, alors on va vous demander encore un petit rab, s'il vous plaît.
Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui. Alors très 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 vite. Alors je représente
Bonjour.
Une université. Bonjour.
Oui, quelle est votre question ?
Oui, merci. Alors je sais très honnêtement, je ne sais pas si vous serez à même de nous apporter une réponse, mais c'est vrai qu'on est un certain nombre de participants à ce colloque à s'interroger sur la situation un petit peu des DU, des IU, entre autres au regard des financements. Pour exemple, alors on a en université une offre quand même assez fournie de DU/DIU qui, pour certains, sont en cours d'adaptation pour rentrer dans le format DPC. Donc, on fait de notre mieux pour répondre à cette obligation et proposer à nos professionnels de santé de faire leur obligation annuelle de DPC grâce à nos diplômes. Et ma question était une inquiétude par rapport peut-être, par exemple, à l'ANFH. Qui, à compter de la rentrée prochaine, d'après ce que nous disent certains professionnels de santé, donc c'est des retours de praticiens qui font leur DPC, demandent les numéros d'enregistrement DPC de nos DIU pour accepter les prises en charge dans le cadre des plans de formation. Alors, mon inquiétude, et je pense que c'est partagé par pas mal de personnes aujourd'hui, est de savoir comment on va pouvoir fonctionner avec ce type de pratique, très simplement. Voilà, merci.
J'ai bien compris votre question. Alors déjà, en fait, il y a deux possibilités. Soit le DU est reconnu en tant que tel par la commission scientifique indépendante des médecins comme étant un DU équivalent DPC. Donc à ce moment-là, si vous voulez, ces DU seront publiés et on les publiera. Ce ne sont pas des programmes de DPC, ce sont des DU reconnus par la commission scientifique. Pour l'instant, à ma connaissance, les commissions scientifiques n'ont pas encore reconnu, ne se sont pas tellement penchées, tout au moins la commission des médecins et Madame Richard m'arrêtera si je dis, Monsieur Orsel m'arrêtera si je dis une bêtise, mais pour l'instant, je pense que les DU n'ont pas encore été examinés par la commission scientifique des médecins. Mais il va y avoir une liste de DU qui valent DPC, et à ce moment-là, ce ne sont pas des programmes de DPC, ce sont des DU qui valent DPC, et qui seront publiés. Deuxième solution, votre DU, pour qu'un DU va le DPC, il faut qu'il comporte dans son sein à la fois une phase cognitive et une phase évaluative. A contrario, vous pouvez avoir des DU qui ne sont pas en tant que tel équivalents à un programme DPC et qui peuvent faire partie d'un programme DPC. Et à ce moment-là, s'ils font partie d'un programme DPC, parce qu'ils sont par exemple le support cognitif d'un programme DPC ou le support évaluatif d'un programme DPC, ils doivent être intégrés dans le programme et effectivement être enregistrés sur le site de l'OGDPC par l'organisme enregistré et évalué qui est porteur de ce programme. Voilà, est-ce que ma réponse vous satisfait ?
Madame Weber, bonjour. Je voudrais vous poser la question très simple de l'accès des médecins salariés au DPC et savoir si la proposition numéro 32 de l'IGAS vis-à-vis des employeurs et des relations entre employeurs et médecins salariés est susceptible d'aboutir. Merci.
Alors, bonjour également. Ben, votre question, je me repenche sur la proposition 32 de l'IGAS, qui était donc de modifier la partie législative du Code de la santé publique en prévoyant que l'initiative de la formation valant DPC relève du salarié et que le refus par l'employeur pendant 2 années civiles consécutives d'une formation demandée par le salarié emporte la possibilité pour celui-ci de choisir librement la formation et l'organisme qui la dispense pour la 3e année. En fait, la difficulté auquel sont confrontés les salariés aujourd'hui, quelle que soit la profession, c'est que soit l'employeur ne leur laisse pas la latitude de faire leur DPC alors que c'est une obligation, soit leur impose un DPC qui est prévu par l'entreprise dans le cadre du plan de formation. Donc l'IGAS, conscient de cette difficulté, a mis en place l'idée que pendant 2 ans, l'employeur serait donc le décideur du DPC et la 3e année, le professionnel aurait le professionnel de santé aurait le choix de son DPC. Mais à aucun moment, si vous voulez, l'IGAS n'est revenu sur le fait que le DPC est une obligation pour l'employeur. Et en ce qui concerne les médecins, en particulier les médecins, il y a le Conseil de l'Ordre qui est totalement là pour vérifier que le professionnel a bien fait suivi son DPC. Et donc, quand vous avez des difficultés, il faut vous retourner vers votre ordre, parce que c'est eux qui sont les garants qui vont vous contrôler. Il y a d'ailleurs le décret qui vient de sortir sur l'insuffisance professionnelle. Donc, c'est très important que vous puissiez faire votre DPC dans les meilleures conditions possibles. Alors, après avoir le choix de son DPC, c'est l'idéal, mais c'est surtout sur ce point-là que l'IGAS est intervenu.
Oui, Madame Weber, je vous vois encore parler, mais je pense que c'est le décalage temporel entre nos interventions. Mais je vais vous poser une question, Daniel Sereni, DPC Santé Université Paris. Donc ça concerne le fonctionnement de l'OGDPC et je voulais vous interroger pour vous demander votre avis au sujet de certaines critiques ou en tout cas interrogations plus que critiques qui ont été apportées vis-à-vis de ce fonctionnement, notamment au regard des difficultés qu'on comprend bien que peut avoir l'OGDPC à faire évaluer par les CSI des différentes professions un aussi grand nombre d'ODPC qui se sont portés candidats à l'agrément. D'autre part, les perspectives, les inquiétudes qu'on peut avoir vis-à-vis de la perspective de l'évaluation ensuite des programmes, de l'évaluation de ces ODPC a posteriori. Et donc, tout ceci ne vous amène-t-il pas à vous poser la question d'une sorte de délégation d'un certain nombre de ces tâches et d'un fonctionnement différent de l'OGDPC par rapport à ce qui avait été prévu initialement par les décrets?
Merci de votre question, monsieur. Les commissions scientifiques, déjà, il y a le principe même des commissions scientifiques et ce sont des commissions scientifiques indépendantes. Donc, nous n'en assurons que le secrétariat. Si aujourd'hui, il y a lenteur à l'évaluation, les lenteurs à l'évaluation est liée au fait que le nombre de conseillers scientifiques est forcément insuffisant par rapport au nombre de dossiers qui arrivent. Donc là, nous, en tant que GDPC, on n'est pas tellement directement concernés. On est sur le secrétariat, mais ce n'est pas nous qui faisons l'évaluation. Donc déjà, cette première partie, elle est totalement déléguée aux commissions scientifiques. Donc pour éviter justement qu'il y ait un engorgement et que les organismes de DPC ne puissent pas proposer des programmes parce que ce sont des entreprises, ce sont des salariés pour lesquels il faut vraiment prendre en compte. Il a été prévu justement que les organismes, à partir du moment où ils présentaient un dossier d'enregistrement correct, qui était enregistré, ils pouvaient proposer des programmes de DPC en attendant leur évaluation. Donc, si vous voulez, c'est la solution que nous avons mis en place avec l'accord de la DGOS. Que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je me contente de mettre en œuvre les textes et je ne les écris pas. Ça, c'est une première chose et je crois que c'est sur cette vague d'organismes qui sont venus s'inscrire dans le cadre, qui veulent faire du DPC. On a d'ailleurs beaucoup d'évaluations négatives, c'est-à-dire que les CSI font vraiment un travail de fond et un travail très très important pour essayer d'éliminer en amont les professionnels, les organismes qui ne répondent pas aux normes exigées par le DPC. Ensuite, il y a effectivement la deuxième partie. Cette deuxième partie, moi, j'y suis très attachée. C'est la partie contrôle, la partie a posteriori, qui permet effectivement, avec les données que nous avons, de voir, de repérer les organismes qui ne sont pas corrects. Voilà, et ensuite, on a la possibilité de les désenregistrer. S'il y avait une organisation différente de l'OGDPC, c'est plutôt, si vous voulez, le nombre, on a énormément d'instances de gouvernance à l'OGDPC, et c'est là-dessus aussi que l'IGAS a mis le doigt, c'est qu'il y a énormément d'instances, et ces instances sont effectivement, elles ont des rôles un petit peu qui se superposent et ça peut poser certaines difficultés. Voilà.
Nous voulions vous remercier beaucoup de tous ces éclairages et je vais passer la parole maintenant à Philippe Porcel. Merci beaucoup. Donc la conclusion vous appartient.
Enfin, une conclusion, là, ça serait peut-être trop ambitieux pour mon exposé. Alors, tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Philippe Orsel, je suis rhumatologue hospitalier, hospitalo-universitaire même, et je suis ici dans ma maison puisque j'appartiens à cette université, à cette faculté de médecine, la Riboisière, Paris 7. Je travaille aussi avec la Fédération des spécialités médicales, et je suis, comme Isabelle Richard, membre de la Commission scientifique indépendante des médecins. J'ai des liens d'intérêt en relation avec cet exposé. Je n'ai plus aucun lien industriel, ni direct, ni indirect, depuis ma nomination à la Commission scientifique indépendante. J'ai strictement, délibérément refusé tout contrat direct ou indirect avec les industries de santé. J'ai quelques intérêts indirects, mais sans aucune rémunération pour ces activités, en tant que co-organisateur de journées de formation importantes qui dépendent de notre centre rhumatologique, et puis aussi en tant qu'ancien administrateur et secrétaire général de ma société savante, ancien président de mon conseil national professionnel de rhumatologie, le CFMR, et puis en tant que membre toujours actif du bureau de la FSM, de son comité DPC, de son comité registre et depuis 2012 membre de la commission scientifique indépendante des médecins. Alors, juste quelques principes de base, mais ça va aller vite parce que c'est des points que vous avez déjà largement débattus, mais que je replace, puisque c'est une conclusion, c'est aussi l'occasion de rappeler lors de la conclusion quelques principes sur l'obligation de DPC. C'est une obligation légale qui concerne tous les professionnels de santé, avec justement un encouragement pour les démarches croisées, c'est-à-dire interprofessionnelles. Et donc c'est un dispositif qui n'est pas médecin-centré. les praticiens sont au centre du dispositif, et ça c'est quand même une différence appréciable par rapport au dispositif précédent qu'on a connu depuis 20 ans, la FMC et l'EPP, ce qui nous confère une certaine responsabilité, et je pense que dans le contexte actuel de toutes les discussions sur le dispositif, ses difficultés, ses manquements et sa glissade vers un échec prédit par certains, cette responsabilité est vraiment importante et je suis personnellement en tout cas absolument convaincu que tout débricolage définitif du dispositif actuel aboutira à une cessation d'activité, de démarche qualité, puisque c'est ça en fait le développement professionnel continu, pour de nombreuses années, par découragement. C'est une obligation théorique qui est assez simple et assez souple, et elle a été voulue assez souple et simple par les textes législatifs et réglementaires. Je vous rappelle que le programme annuel de DPC, c'est une action d'analyse de pratique plus une action de formation cognitive. En soi, c'est facile à faire, c'est simple, c'est certainement très insuffisant, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Isabelle Richard tout à l'heure, pour assurer l'ensemble de la formation d'un praticien, qu'il soit libéral ou salarié. Pour que ce programme de DPC soit validant, il faut que l'ODPC soit enregistré par l'OGDPC et validé par la ou les CSI, en fonction de la cible professionnelle de santé visée. La CSI a déjà commencé à évaluer des dossiers. Donc le DPC est en marche, oui, on peut l'affirmer. C'est une obligation pour tous depuis maintenant le 1er janvier 2013, hein, ça fait près d'un an et demi. Près de 23 000 praticiens libéraux ont déjà enregistré leur profil sur mondpc.fr, qui est le site d'inscription de l'OGDPC. Et les différents éléments du dispositif ont été mis en place depuis 2012 et fonctionnent effectivement depuis 2013, même si on a l'impression que de temps en temps les roues sont un peu ovales, voire carrées. Avec près de 2800 ODPC habilités à dispenser des programmes de DPC, dont 1639 visent des médecins. Plus de 28 000 programmes de DPC ont été déjà déposés sur le site de l'OGDPC, dont près de 13 000 à destination des médecins. Ce sont les derniers chiffres de l'OGDPC qui m'ont été communiqués par Monique Weber hier. Alors, le titre de mon exposé est donc de la conclusion de ce colloque d'un jour et demi et d'essayer d'envisager les pistes pour améliorer l'acceptabilité du DPC. Bien que mon exposé ne soit pas, celui d'Isabelle Richard, une analyse, une exégèse et du rapport de l'IGAS et des conclusions sur le scénario préférentiel, le simple titre de cette plaque et de mon exposé laisse sous-entendre que le scénario 1 est le scénario privilégié par la Fédération des spécialités médicales, que je représente ici, mais pas uniquement. Je n'oublie pas non plus ma casquette d'universitaire, comme il en sera question un peu plus loin. Donc j'ai décliné cette tentative de reconstruire le dispositif de DPC en 6 propositions. Favoriser l'attractivité, améliorer la visibilité, simplifier le dispositif qui apparaît pour beaucoup extrêmement complexe, voire compliqué. Combattre les incohérences, voire certaines dérives que l'on voit déjà apparaître. Faire en sorte que ça marche, ça paraît simple, voire simpliste, mais on va voir que ça comporte des propositions probablement constructives. Et puis, quelques trucs simples pour terminer. Favoriser l'attractivité. D'abord, en utilisant l'existant. Isabelle Richard a rappelé que dans nos universités, nos facultés de médecine et autres facultés de santé, dans nos hôpitaux, qu'ils soient CHU, qu'ils soient centres hospitaliers, dans toutes les associations, sociétés savantes, associations de médecins, associations de formation continue qui doivent continuer d'opérer et de mener des actions. Il y a une masse d'actions de formation disponibles qui doit nourrir et continuer de nourrir le DPC. Dans nos établissements hospitaliers, il y a, et notamment, mais pas uniquement, de par l'obligation de certification de la Haute Autorité de Santé, une masse d'actions, d'analyses des pratiques qui sont disponibles et qui doivent nourrir les programmes de développement professionnel continu. Et en plus, ça tombe bien, puisque toutes ces actions sont au plus proche des professionnels de santé, et je pense que c'est ça, favoriser l'attractivité, c'est-à-dire utiliser au plus proche des professionnels de santé tout ce qui est déjà disponible et le rassembler de façon cohérente et logique pour le rendre attractif, simple, souple, et donc faire en sorte que ça marche. Deuxième piste pour l'attractivité, c'est le DPC près de chez soi ou chez soi. Alors, près de chez soi, j'ai déjà abordé dans l'item précédent. Les réunions locales de praticiens qui se connaissent et travaillent déjà ensemble, que ce soit dans le secteur hospitalier ou dans le secteur libéral. Mais aussi, et c'est incontestablement une évolution qu'il faut suivre, qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut contrôler, mais tout ceci est parfaitement contrôlable, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, de la communication pour l'enseignement, et la formation, c'est aussi de l'enseignement. Le TPC, dans sa spécialité, bien entendu, c'est une option qui est mise en avant et privilégiée par la Fédération des spécialités médicales. Et c'est bien pour ça que la Fédération des spécialités médicales a, en s'appuyant sur l'existence, c'est-à-dire sur les conseils nationaux professionnels de spécialité, incité et encouragé les différentes spécialités médicales à construire leur maison du DPC, c'est-à-dire leur propre organisme de DPC de spécialité, en essayant, sans entrave du tout à la concurrence, de faire en sorte que cet organisme cet ODPC de spécialité soit à la fois représentatif de la spécialité et soit, dans la mesure du possible, unique pour chaque spécialité. Donc toutes les spécialités réunies dans la FSM ont souhaité pouvoir s'appuyer sur un ODPC. Et donc c'était pas une injonction venant du bureau de la FSM, c'était vraiment un retour de la base de la FSM, c'est-à-dire de l'assemblée de ces conseils nationaux professionnels de spécialité. Alors après cela, on a été confronté à quelques difficultés d'organisation et notamment d'un point de vue juridique. Il n'était pas envisageable que les conseils nationaux professionnels de spécialité eux-mêmes ou leurs membres fondateurs, c'est-à-dire nos sociétés savantes, nos syndicats de médecins spécialistes, etc., soient ODPC. Pourquoi ? Pour des raisons de conflit d'intérêts. Et donc l'orientation de la FSM a été, après avoir longuement réfléchi et pris des avis juridiques avisés, d'inciter les CNP à créer un opérateur indépendant, lié bien sûr aux constituantes de la spécialité, mais indépendant pour sa gouvernance décisionnaire, Mais restant lié donc aux structures scientifiques et pédagogiques de la spécialité, bien entendu. L'intérêt de ces ODPC de spécialité, c'est justement de favoriser l'attractivité de par tout le contenu scientifique et de par aussi la proximité des praticiens rassemblés dans leur spécialité. Alors, bien sûr, je ne peux pas ne pas citer l'exemple de la rhumatologie, d'autant plus qu'il y a deux autres rhumatologues sur les bancs de cette salle. Le CNP de rhumatologie et la Société savante, la Société française de rhumatologie, ont assuré la transition en 2013 en tant qu'organisme enregistré par l'OGDPC dans le cadre des mesures transitoires. Et un ODPC indépendant, qu'on a appelé RhumatoDPC, a été enregistré et validé en décembre 2013 par la CSI Médecins pour assurer le relais à partir de 2014 et pérenniser la démarche qualité des rhumatologues en ayant un catalogue pour l'instant restreint à trois programmes de DPC, mais qui recouvre trois aspects différents de notre spécialité, et bien sûr avec la forte intention de développer et d'enrichir ce catalogue. Alors pourquoi RhumatoDPC et pas la Société savante ou le CNP de la spécialité ? Parce que la société savante se serait vue opposer l'obstacle au moment de l'enregistrement par la CSI de la règle d'indépendance financière. Toutes nos sociétés savantes sont très dépendantes des financements de l'industrie pharmaceutique. Et donc, ceci aurait interdit tout enregistrement par validation par la CSI. Le CNP lui-même, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, était dans l'impossibilité de construire un ODPC, comme tous les CNP, du fait de lien d'intérêt pour le DPC, du fait de l'implication de tous les CNP dans la FSM, la FSM désignant les membres, ou plutôt désignant, proposant des membres spécialistes de la CSI évaluant les ODPC. Donc la boucle des liens d'intérêt était automatiquement bouclée et il était nécessaire d'avoir une structure indépendante. Améliorer la visibilité du dispositif. Les orientations nationales sont dites prioritaires, sont tellement nombreuses qu'elles recouvrent l'ensemble du champ de la santé publique et de nos pratiques, donc elles sont plus vraiment très prioritaires. Donc si on veut vraiment avoir des orientations prioritaires, et ça me paraît important dans le principe d'une démarche qualité, il faudrait sans doute être plus sélectif dans la désignation des orientations nationales. Les orientations nationales ont été choisies en 2012. Elles n'ont jamais été révisées depuis. Vous allez me dire, il n'y a pas vraiment besoin de les réviser puisqu'elles satisfont tout le monde tellement elles sont nombreuses, peut-être. Mais normalement, elles devaient être adaptées et actualisées chaque année. On peut considérer aussi que le catalogue des méthodes et modalités est peut-être un peu inflationniste. Et ça, ça nuit certainement à la visibilité, à la lisibilité du dispositif de DPC. Beaucoup de candidats au DPC ou de collègues qui envisagent de monter un organisme de DPC nous disent « Oh là là, mais j'arrive pas à m'y retrouver dans ce foisonnement de méthodes très compliqué. Comment je dois faire ?» En fait, en plus, on s'aperçoit quand on regarde, du moins pour l'instant, les programmes qui sont soumis à notre évaluation à la CSI, que le nombre de méthodes et modalités qui sont dans les programmes de DPC actuels sont très limités. Je pense d'ailleurs que c'est mieux comme ça, au moins pour avoir un dispositif assez simple pour favoriser sa mise en place et son déploiement. L'important aussi, c'est de développer une communication simple et positive en utilisant tous les canaux d'information professionnels possibles et en essayant de faire cette information de la façon la plus consensuelle possible. Je pense aussi, et ça je pense que c'est une mission importante pour nous universitaires, c'est d'ancrer la démarche qualité comme un élément incontournable de nos pratiques dès la formation initiale, c'est-à-dire de graver déjà le DPC dans les neurones de nos étudiants dès les premiers cycles d'enseignement dans nos facultés. J'étais particulièrement heureux de voir mentionner le DPC dans une thèse de médecine générale dont j'étais membre du jury il y a 3 jours, comme un élément important de la formation dans le contexte donc du sujet qui était développé dans cette thèse. Avoir un système d'opération, avoir un système d'information fluide et interopérable, ça me paraît important. C'est une critique qu'on pourrait décliner à l'envi sur nos universités, nos hôpitaux, l'assurance maladie, etc. Il se trouve que le système d'information de l'OGDPC n'est pas, pour l'instant, en tout cas, et là on rejoint le problème du manque de moyens, n'est pas top niveau, comme diraient nos jeunes étudiants. Donc il est certainement important d'améliorer ce système d'information et de l'interconnecter avec d'autres systèmes d'information. Il y en a une grande multitude actuellement. Il faut qu'ils se parlent et qu'ils puissent se parler de façon intelligente pour que les professionnels de santé qui accèdent à un site, à un système d'information, puissent gérer leur démarche DPC sans avoir à remplir les mêmes renseignements sur 2 ou 3 systèmes d'information différents. La lisibilité de l'offre de formation doit aussi pouvoir se faire en un point unique. L'OGDPC est actuellement ce point unique, mais ne parvient pas à recueillir l'exhaustivité de l'ensemble des programmes de DPC.
notamment du fait de blocage de certains autres opérateurs du DPC. Alors, dans ce contexte, la Fédération des spécialités médicales a souhaité développer pour toutes les spécialités, donc pour les CNP de spécialité, un système, une plateforme d'information qui permette à chaque spécialité, et chaque spécialité est repérée par ce pavé sur ce rectangle qu'on appelle la solutricine du DPC, chaque spécialité donc peut avoir accès à un site de sa spécialité où les différents organismes délivrant des programmes de DPC et les différents programmes de DPC peuvent être renseignés par les acteurs de ces organismes dans la spécialité. Rhumato-DPC, que j'ai mentionné tout à l'heure, a également son site, qui est interconnecté avec la plateforme de la Fédération des spécialités médicales, et où les trois programmes de DPC, ainsi qu'un certain nombre d'informations sur le dispositif, sont figurés. Simplifier le dispositif. Alors, simplifier le dispositif, c'est d'abord, et ça c'est une idée forte de la FSM, mais je pense qu'elle sera facilement portée par tout le monde, la porte d'entrée unique pour tous les médecins. On insistait tout à l'heure sur le fait que les salariés ne puissent pas avoir accès au site de l'OGDPC. C'est une aberration, c'est une incohérence, et il n'est pas possible que ça continue comme ça. Tous les praticiens, alors je dis les médecins parce que ici on est réunis entre médecins, mais tous les professionnels de santé doivent pouvoir accès à un guichet unique, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur spécialité pour les médecins, pour gérer leur démarche de DPC. Améliorer les circuits, Isabelle Richard a déjà beaucoup insisté sur les moyens sous-dimensionnés de l'OGDPC et sur la lourdeur de la machine administrative. En soi, la lourdeur de la machine administrative peut ne pas être un handicap si les moyens sont adaptés pour pouvoir gérer correctement cette lourde machine administrative. Et on peut imaginer que quand un dispositif se met en place, en plus de façon brutale, c'est-à-dire d'une année à l'autre, pour l'ensemble des professionnels de santé en France, c'est-à-dire plus de 2 millions de personnes, on peut imaginer que le dispositif administratif, pour le gérer, soit lourd. Mais si les moyens mis en regard sont adaptés, ça peut fonctionner. Pour l'instant, il est clair que ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que tout cela a un impact négatif sur la qualité de certains programmes de DPC, certains profitant des failles de cette machine administrative pour distiller des programmes de DPC de qualité très nettement insuffisante, comme l'a laissé entendre Monique Weber dans son intervention. Il y a pour les spécialités à risque un certain flou persistant sur la place dans le dispositif de DPC de l'accréditation des spécialités à risque, un dispositif HAS, et qu'il va bien falloir un jour ou l'autre intégrer de façon cohérente au dispositif de DPC. Il y a eu déjà beaucoup de discussions et beaucoup de progrès qui ont été faits, mais il faut transformer l'essai. Mieux définir les limites des programmes, c'est très important. Il y a un certain nombre il y a une très grande hétérogénéité dans les programmes, à la fois en termes de qualité des programmes, là encore Monique Weber l'a souligné tout à l'heure, mais aussi en termes de durée et de contenu. Isabelle Richard a rappelé qu'un programme de DPC pouvait se dérouler sur une journée et que d'un autre côté, un DU-DU représentait parfois 150, voire un peu plus d'heures d'enseignement. Et cette hétérogénéité doit pouvoir être gérée, notamment dans le contexte du financement. Je rappelle juste ici que pour les médecins libéraux, l'inscription se fait sur le site de l'OGDPC, qui permet de consulter l'ensemble du catalogue des programmes disponibles et que les modalités de prise en charge donc pour les médecins libéraux sont entièrement via l'OGDPC après inscription donc sur le site de l'OGDPC, mais après que le praticien ait choisi son organisme de DPC pour réaliser son programme. L'ODPC est rétribué donc sur un montant forfaitaire de base par programme, ajusté en fonction de la durée du programme. Le médecin libéral est indemnisé sur la base de sa participation au programme entre 1 et 7 demi-journées. Et en 2013, le montant maximum de l'enveloppe par praticien était de près de 3 000 euros, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. La validation des programmes est assurée par l'organisme de DPC et transmise à l'OGDPC et au Conseil départemental de l'Ordre des médecins, tant au moins qu'il y aura des départements. Pour les médecins hospitaliers, c'est un peu plus compliqué et surtout le dispositif est un peu moins facilement lisible. Il n'y a pas d'inscription possible sur le site de l'OGDPC à partir du moment où on est salarié. Et ça, encore une fois, c'est une incohérence et une aberration qu'il va falloir résoudre. Le catalogue peut être consulté sur le site de l'OGDPC, mais il n'est pas complet. Il manque des programmes parce que, notamment, la NFH refuse de transmettre certains programmes à l'OGDPC. L'inscription se fait auprès d'un ODPC, et là encore, ça c'est un incontournable, et l'obligation légale laisser le choix au praticien de son organisme de DPC. Donc un praticien salarié, hospitalier en particulier, peut très bien réaliser son DPC dans son établissement ou à l'extérieur de son établissement, en l'état actuel de la situation. Les modalités de prise en charge sont variables en fonction de l'adhésion ou non de l'établissement à un OPCA, c'est-à-dire en l'occurrence pour les hôpitaux publics à la NFH. Et la validation est assurée par l'organisme DPC, comme toujours, et transmise au Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Si je résume cet aspect donc hospitalier du DPC, si je veux faire mon DPC à l'hôpital et que mon établissement n'est pas enregistré et validé au DPC, c'est pas possible. Si je veux le faire à l'hôpital avec un établissement qui a été validé au DPC, et donc s'il y a un programme adapté à mes pratiques sur le catalogue de l'OGDPC, pas de problème, je fais mon DPC à l'hôpital, c'est géré en interne par ma direction des affaires médicales et par la CME, et l'attestation est délivrée par l'hôpital et transmise au Conseil de l'Ordre, par l'hôpital qui est au DPC. Si je veux faire mon DPC dans, par exemple, mon ODPC de spécialité, j'en ai parfaitement le droit, et à ce moment-là, je demande le financement à mon hôpital, à ma direction des affaires médicales. Et il y a deux cas de figure en fonction de l'adhésion ou non de mon établissement hospitalier à la NFH. Si mon établissement est adhérent à la NFH, c'est la NFH qui règle l'ODPC de spécialité et l'attestation est délivrée par cet ODPC. Si mon établissement n'est pas adhérent à la NFH, c'est l'établissement de santé, c'est-à-dire mon hôpital qui règle le montant de mon programme de DPC à l'organisme de DPC, c'est là que parfois ça coince un peu, et l'attestation doit être délivrée par l'ODPC, comme toujours. Combattre les incohérences et les dérives, c'est comme le soulignait Monique Weber, et ça c'est un point vraiment fort, on a passé une journée hier à la Fédération des spécialités médicales à justement analyser les conclusions du rapport de l'IGAS et essayer de soumettre des propositions. Une de nos propositions et notre première proposition d'un point de vue hiérarchique, c'est d'assurer la qualité de l'évaluation initiale et de l'évaluation continue du dispositif de DPC en mettant en place un système de contrôle simple et efficace. Là encore, l'objectif n'est pas d'alourdir la machine administrative ou de complexifier l'usine à gaz, mais d'avoir tout de même un système de contrôle. C'est d'autant plus important que à la CSI, nous évaluons les ODPC sur la base d'un programme témoin et pas du catalogue de programmes. Et ceci aboutit manifestement à des dérives, c'est-à-dire que le programme témoin que l'on peut être amené à évaluer à la CSI peut être magnifique et tout le reste derrière déplorable. Donc il est important de pouvoir aussi assurer des contrôles a posteriori pour vérifier que les programmes sont dans leur ensemble cohérents et de qualité. Promouvoir une communication et une publicité éthique, je ne mentionne pas certains organismes ou pseudo-organismes se réclamant de l'OGDPC, souvent avec des logos factices d'ailleurs, qui envoient des mails en faisant la promotion de telle ou telle action ou programme de DPC dans les Caraïbes ou dans l'océan Indien ou sur une journée dans un hôtel de la banlieue parisienne. Assurer et assumer un financement cohérent avec l'ambition du dispositif, ça rejoint bien sûr toutes les insuffisances de financement qui ont été bien pointées par le rapport de l'IGAS. Combattre les dérives financières et les effets d'aubaine. Le financement sur la base d'une enveloppe globale de près de 3 000 euros par praticien aboutit la montée en puissance du système, c'est-à-dire que l'ensemble des praticiens sont bien sûr pas encore engagés dans le dispositif, a conduit en fait l'OGDPC, sur une très bonne intention, à autoriser les praticiens en 2013 et encore en 2014 à réaliser plusieurs programmes de DPC indemnisés. C'est probablement intéressant et utile pour favoriser le déploiement du dispositif, mais ça ne correspond pas à l'obligation légale, puisqu'encore une fois, c'est un programme indemnisé, et il ne faudrait pas que ça donne la mauvaise habitude de vouloir absolument utiliser le maximum de l'enveloppe forfaitaire disponible pour le programme qui dure le plus longtemps et qui est peut-être le plus performant, si on fait un programme limité sur une journée et qui donc coûte moins cher. Donc la Fédération des spécialités médicales défendra une évaluation du financement des programmes de DPC sur la base des coûts réels et donc une indemnisation sur la base de ces coûts réels et non pas d'un forfait annuel global. Corriger des inégalités des enveloppes en fonction des pratiques ou des établissements, on voit des différences très importantes entre les praticiens salariés et les praticiens libéraux en termes de financement des programmes, y compris pour des programmes strictement identiques, c'est-à-dire délivrés par un même organisme DPC en fonction de la pratique libérale ou hospitalière et donc du bon vouloir de la direction des affaires médicales de tel ou tel hôpital de financer à telle ou telle hauteur et pas à hauteur de ce qui devrait être, ces inégalités doivent être corrigées car elles sont juste insupportables. Donc juste pour vous rappeler que le DPC n'est pas seulement une machine à sous, même s'il y a beaucoup d'argent dans le DPC, et que tous ces effets d'aubaine et toutes ces dérives doivent vraiment être combattus. Alors, pour terminer, quelques conseils ou suggestions un peu plus sur une note d'humeur ou d'humour. Faire en sorte que ça marche, c'est d'abord éviter de tout faire pour que ça ne marche pas. C'est peut-être aussi de faire en sorte que chaque intervenant ne cherche pas à tirer la couverture à soi, et en particulier les sacs de monnaie. Établir des partenariats gagnant-gagnant, et je vais vous donner un exemple. Continuer l'évaluation des dossiers des candidats au DPC, je rejoins vraiment ce que vous a dit Isabelle Richard tout à l'heure, on travaille, on a réussi à enclencher la machine, ça a été un peu difficile parce que on a eu aussi des bâtons dans les roues, donc ça marche, ça remarche, surtout n'arrêtons pas le train. Communiquer, c'est ce qu'on essaye de faire ici, et comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est pas très compliqué, c'est une démarche qualité, donc les enjeux, c'est la qualité de nos pratiques et des soins, rien moins, rien plus, mais rien moins non plus. Alors, l'exemple de partenariat gagnant-gagnant, c'est cette charte que nous avons signée entre la Fédération des spécialités médicales et l'ensemble des conférences nationales des CME, qui a été signée en septembre 2013. Cette charte définit un cadre de fonctionnement du DPC pour les médecins hospitaliers qui relèvent d'une spécialité ayant enregistré un ODPC. Donc elle définit les relations du partenariat entre la CME, locale du praticien, et l'ODPC de spécialité si le praticien a choisi de réaliser son programme de DPC dans un ODPC extérieur à son hôpital. Donc elle définit des engagements bilatéraux de la FSM, des CME, avec une collaboration sur un mode gagnant-gagnant. Il est important de la diffuser, de la faire connaître. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette charte. J'espère que au moins quelques-uns, peut-être, levez la main. J'ai peur d'avoir peur. Ouais, c'est ce que je craignais. Et puis, c'est important aussi d'avoir des CME pionnières, c'est-à-dire qui s'engagent pour faire partager le DPC entre l'hôpital et la spécialité. Alors, les engagements donc stipulés dans cette charte, du côté de la FSM, c'est d'inciter les organismes DPC de spécialité à élaborer des programmes spécifiques de type exercice en établissement, avec un volet analyse de pratique réalisé dans l'établissement et un volet cognitif réalisé dans une action qui peut être un congrès ou une autre réunion scientifique de la spécialité. L'obligation donc ou l'engagement de la CME, c'est de mettre en place une organisation qui garantit l'engagement du praticien dans une démarche d'APP, répondant aux méthodes et modalités de la HAS dans le cadre de ses pratiques hospitalières, Là, ça peut être au choix une revue de morbimortalité, une réunion de concertation pluridisciplinaire ou toute autre méthode, modalité que nous mettons en place, notamment dans le cadre de la certification de nos hôpitaux. Et je pense que c'est important, puisqu'on a diverses obligations, d'essayer de les utiliser de façon, là encore, gagnant-gagnante, plutôt que d'empiler les contraintes et les couches d'ennui. L'ODPC, lui, s'engage à fournir à la CME le détail du programme suivi et l'attestation de participation, et bien sûr, s'engage à rémunérer la prestation fournie par la CME. Alors, pour terminer, quelques trucs simples. On est dans une faculté, donc je m'autorise cette familiarité. Soyons rigoureux et transparents. C'est vraiment ce qui nous guide depuis le début et à la Fédération des spécialités médicales et à la Commission scientifique indépendante des médecins. Mais, contrairement à certains, ou du moins au début du fonctionnement de la CSI des médecins, je ne crois pas qu'il soit très lucide ni très utile de laver plus blanc que blanc, notamment pour ce qui est de toutes les discussions interminables et qui nous ont bloqués pendant 6 mois sur l'indépendance financière. Deuxième point, et encore une fois, j'enfonce le clou déjà largement planté par Isabelle Richard, le DPC ne résume pas la formation des professionnels. Ça serait dommage, ça serait très réducteur. La formation continue telle qu'elle a toujours existé doit continuer en utilisant ses moyens, ses méthodes, ses canaux habituels. C'est un complément indispensable de notre formation. Et puis, il faut peut-être aussi regarder un peu ailleurs. Il y a beaucoup de pays où le DPC, tel que je vous l'ai présenté, fonctionne et constitue un réel progrès pour la qualité des soins. Regardez notamment ce que font nos collègues canadiens, c'est très démonstratif. Juste quelques questions un peu provocatrices là en direction de l'université pour terminer. Et encore une fois, je rappelle que je suis universitaire et très fortement impliqué dans l'université. Je m'étonne du fait que nous n'ayons pas encore vu un seul DUDU passer en CSI. J'ai été heureux d'apprendre que ça allait bientôt arriver de la bouche de Monique Weber. Je n'ai pas compris, en tant que membre de la CSI, comment des universités pouvaient déposer un dossier qui ne correspondait pas au cahier des charges minimum d'un programme de DPC. Et je vous assure qu'il n'y a aucune acrimonie a priori contre les universités de la part de la CSI des médecins, et que les deux universités qui n'ont pas été validées par la CSI des médecins l'ont été après une évaluation rigoureuse et sérieuse de leur dossier, qui ne correspondait pas, pour ce qui est du programme témoin, au cahier des charges d'un programme de développement professionnel continu. C'est tout. Donc j'espère de tout cœur que ces dossiers vont revenir améliorés, corrigés et pourront être validés. Et puis, alors ça c'est une interrogation que j'ai depuis le début, que je n'ai jamais réussi à comprendre. Pourquoi les CHU et les UFR qui travaillent ensemble tous les jours ne se sont pas entendus pour créer des ODPC pratiques hospitalières qui auraient eu une très forte légitimité et une incontestable attractivité pour tout ce qui est pratique hospitalière. Je vous remercie.
Bien, merci Philippe Orsel pour cette très belle conférence. Marie-Hélène, on a droit à une question peut-être ?
Ah oui, mais j'en pose aussi. Peut-être que je suscite aussi quelques réactions.
Moi, je suis ravie de votre synthèse.
Bon.
Oui.
Je pense que ça rééquilibre
bien
le discours.
Oui.
Et le discours de...
Oui, 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 je pense. Je pense qu'en fait, les trois discours étaient très complémentaires et témoignent bien du fait qu'on peut trouver un terrain d'entente en discutant ensemble, sereinement.
Oui.
Merci. Qu'en est-il d'un partenariat gagnant-gagnant avec la SFM et les universités ? Vous avez parlé du partenariat gagnant-gagnant avec l'hôpital. Qu'en est-il aussi de cela ?
Alors, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas du tout entamé de discussion avec les universités. C'est peut-être une lacune importante. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'histoire parce que... Bon, pas voulu polémiquer avec Isabelle Richard tout à l'heure, et je pense que son exposé était très objectif et très clair, et ses conclusions, je les endosse pour la plupart. Si on reprend l'historique de le long cheminement des décrets DPC, très très long, puisqu'il y a eu, je ne sais pas combien, plus de 50 versions préliminaires. Si les universités n'ont pas fait partie du dispositif initialement inscrit dans le décret DPC, c'est pas parce qu'on ne voulait pas des universités, c'est pas parce qu'on n'avait pas pensé, enfin c'est pas moi, hein, je dis on, mais je ne sais pas, aux universités, bien sûr, c'est parce que, de ce que j'ai compris, mais je pense avoir bien compris, on me l'a expliqué en tout cas plusieurs fois, à l'époque de l'AERES, qui évaluait les universités, il y avait une espèce de conflit potentiel d'évaluation entre l'évaluation de l'AERES, qui avait la légitimité pour évaluer les universités, et les CSI, qui seraient venus en second évaluateur pour ce qui est du DPC sur ces universités. Alors, est-ce que c'était un mauvais prétexte pour... ça, après, ce qu'il y a derrière, j'en sais rien. Même ce qu'il y a devant, j'étais pas directement dans les discussions. Mais en fait, c'est ça. Et c'est pour quand même essayer de rattraper une partie de l'activité importante des universités, du contenu formation des universités qui est à travers les DU et DU, que ces DU et DU ont été mentionnés dans le décret initial DPC comme pouvant valider un programme de DPC à condition que le DU ait été évalué et validé par la CSI.
Bien.
Mais discuter entre FSM et université, je pense que c'est une bonne idée.
Bien, merci beaucoup pour cette intervention. Et je remercie au nom de DPCSU l'ensemble des participants pour ce colloque qui, je crois, a été très enrichissant. Alors, prochain rendez-vous, Assemblée générale d'automne.